Bonjour Simon Hureau.
Bonjour Cyril.
Je suis ravi de t'accueillir dans N'écoute pas les idoles sur Radio Béton. Alors, je dis tout de suite que j'avais prévu d'utiliser le vouvoiement radiophonique, mais comme nous sommes amis dans la vie, j'aurais probablement glissé du « vous » au « tu » sans m'en rendre compte. Alors, autant se tutoyer d'emblée, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'invite l'auteur hein, et non l'ami, parce que je t'ai lu et apprécié bien avant que le hasard nous fasse nous connaître. Hein. Voilà.
Bon. Eh oui.
Eh oui. Alors, je te reçois à l'occasion de la sortie de ton dernier roman graphique, L'Oasis, publié chez Dargaud. Après Rujimba, un document ethnographique affectueux et très personnel sur les Himba, publié en collaboration avec Solène Bardet chez La Boîte à Bulles, tu viens donc de publier L'Oasis, une BD, entre guillemets, lumineuse, poético-écologique et presque existentielle, qui rencontre un grand succès public et aussi chez les amateurs éclairés. Alors, ma première question très simple, c'est pourquoi faire un livre sur ton jardin ?
Oui, bonne question. En fait, le jardin, c'est le support. Dans le projet là, de l'Oasis, il s'agissait plus de parler de biodiversité. Et de... Enfin, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment, particulièrement en termes catastrophistes, on dit qu'elle disparaît et on le constate. Sauf que moi, je constatais l'inverse à l'échelle de mon jardin, à savoir que depuis 10 ans qu'on est dans ce bourg, dans cette maison et dans ce jardin, au fur et à mesure qu'on y fait des choses, en partant de rien, c'était vraiment une friche quand on est arrivé quasiment, on est arrivé à un jardin extrêmement vivant, regorgeant de vie, d'insectes, d'oiseaux, et Et je trouvais ça passionnant, parce que plus je sors dans le jardin, plus je découvre de nouvelles espèces, et plus je vois cette avancée en crescendo de l'espace mort à l'espace truffé de vie. Et par rapport au discours ambiant, moi j'avais envie de dire ça, qu'à mon échelle, d'humble citoyen possesseur de 1000 mètres carrés de terrain, ce qui n'est pas grand-chose, on peut faire revenir la vie. Donc j'ai longtemps cherché, par le biais de la fiction, comment raconter tout ça, comment parler de ces choses-là. Et puis, au final, il y a eu un déclic à un moment, et je me suis dit, mais non, le plus simple, c'est vraiment de parler de mon expérience directement et de ce que je vis au quotidien. Ce sera beaucoup plus direct, et je pourrais aller beaucoup plus loin dans le détail et le vif du sujet. Donc, j'ai choisi de raconter le jardin, de raconter cette expérience sur 10 années.
Oui, donc, et cette passion-là du jardin, elle est très ancienne, elle est antérieure à ton emménagement dans cette maison avec cette espèce de grand terrain, ou alors ça a été vraiment une sorte de découverte, d'évidence, quand tu es arrivé à Langeais, on peut dire que tu y habites. Hein.
Oui, c'est tout à fait, c'est pas un secret. Même si dans le livre, d'ailleurs, je précise pas l'endroit, je donne 2-3 indices en région centre. En fait, bon, c'est mon histoire, c'est mon jardin, mais ça pourrait se passer n'importe où. C'est quand même relativement universel ce que j'ai pu faire dans ce jardin, c'est à la portée de tout le monde. Oui, j'ai oublié la question.
Non, la question, c'est d'où te vient cette passion du jardin, si elle est antérieure en fait à cet emménagement.
Oui, elle est très antérieure en fait, je l'ai depuis toujours. J'ai grandi dans une maison de ville avec un jardin, mes parents avaient un petit jardin. Ça m'a toujours intéressé de voir la vie qui bougeait. Ça a surtout commencé avec les oiseaux, puis les insectes, c'est venu très vite. Je me suis assez vite passionné pour les insectes. J'ai assez vite eu un guide aussi, un guide de reconnaissance des animaux dans la nature, puis un guide des insectes, puis un guide des coléoptères. Et je trouve ça fascinant de comprendre comment ça fonctionne par le détail, de comprendre que tel insecte est lié à telle plante, tel mode de vie, et que c'est normal qu'on le voit là, à ce moment-là, parce que tel est son mode de vie. Ça m'a toujours passionné, mais j'ai toujours vécu en ville, et il y a eu un moment où je me suis dit, bon, bah, là, on a le choix de l'endroit où on veut vivre, est-ce que c'est pas le moment d'aller vers la nature, d'aller la trouver là où elle est, c'est-à-dire sortir de la ville, et enfin, se trouver une maison avec un jardin.
Alors justement, tu parlais là, tout à l'heure des enjeux de la biodiversité en inscrivant en quelque sorte l'oasis dans une actualité, pour employer un terme un peu fourre-tout. Mais justement, moi, ce que je trouve, outre ces remarquables qualités graphiques et scénaristiques sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, c'est que ton livre, il a le mérite d'éviter l'écueil d'une moralisation assez courante aujourd'hui, celle des donneurs de leçons.
Oui, en effet. Alors j'ai pris bien garde à ça, en effet. D'abord parce que je suis pas du tout en mesure de donner des leçons. Je suis vraiment un individu jardinier de base qui est parti de rien et qui continue d'apprendre. D'ailleurs, plus j'apprends, plus je me rends compte de l'étendue, de la possibilité du savoir en termes de jardinage et de connaissance de la nature. Le livre me l'a confirmé, c'est-à-dire que depuis que je le dédicace, j'arrête pas de rencontrer des jardiniers... amateurs pour la plupart, mais même des amateurs très très éclairés, et ça me confirme que je dois rester modeste vis-à-vis de ça. Donc c'est mon parcours, mais mon parcours depuis zéro jusqu'à toutes ces petites connaissances, toutes ces petites choses que j'ai acquises au fur et à mesure. Donc j'ai pas fait d'études de jardinage, de quoi que ce soit. J'apprends tout seul avec les livres, en rencontrant les gens, en discutant, recherche sur internet, les guides, j'ai un très bon guide du jardin bio. Voilà, je pars pas d'un savoir, je l'acquiers au fur et à mesure. Donc je voulais surtout pas me mettre dans cette position de celui qui dit voilà, c'est moi je sais, c'est comme ça qu'il faut faire, je peux pas me le permettre, et ça aurait été vraiment désagréable. Et je pense que il faut que ce livre puisse être lu par un amateur comme moi, et que ça lui donne plus envie que de le refermer vis-à-vis de la chose en disant « Oula, c'est trop complexe, j'y arriverai jamais ». Donc c'était à la fois logique et en même temps délibéré de ne pas se mettre dans cette position-là. J'ai rien à apprendre. Après, depuis que je dédicace, c'est pas mal de gens qui m'ont dit « C'est super, je viens d'acquérir une maison avec un jardin ». Ça me donne plein d'idées. Alors je suis ravi si ça peut donner des idées, puisque bon, finalement... En 10 ans d'expérience, il s'est passé beaucoup de choses, et si ces 10 années peuvent servir à ceux qui démarrent tout juste, tant mieux. Mais c'est un parcours d'amateur, quoi.
Oui, alors justement, tu parles de 10 ans, c'est une véritable aventure hein, que tu as menée là, qui manifestement n'est pas finie, en tout cas que tu restitues pour partie dans l'oasis. Alors justement, ce que je trouve passionnant, entre autres là-dedans, c'est que ce n'est pas l'histoire d'une conquête sur la nature, mais c'est plutôt l'inverse, celle d'une retrouvaille, d'une réconciliation avec la nature, avec laquelle il s'agit d'entrer en connivence. Je pense à ce que Heidegger, philosophe allemand du XXe, appelle le faire venir, hein, quand il distingue la technique industrielle de la technique artisanale, pour dire, ben, au fond, voilà, quoi. Il faut pas contraindre la nature, il faut la faire venir. Et j'ai vraiment l'impression, quand on lit l'Oasis, que ça a été ça. Tu as fait des choses, mais en fait, que tu as laissé venir se déployer l'inattendu, quoi, avec tout le lot de surprises que ça implique du point de vue, justement, de la faune, de la flore.
Ouais, c'est exactement ça. C'est même un peu le cœur du livre. Oui, c'est l'impression que j'ai. Enfin, voilà, c'est mon approche du jardin. C'est pour ça que vraiment je peux pas donner de leçons, parce que c'est comme ça que moi je vois les choses, et je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas c'est l'équilibre que je cherche à trouver entre ce que nous on apporte, ce qui fait que c'est un jardin et pas une friche, et ce qui fait que la nature est chez elle et pas dans un jardin de catalogue manucuré, sans une bestiole, sans une ortie, sans une herbe de travers. C'est vraiment une histoire d'équilibre à trouver entre l'accueil qu'on veut bien réserver à toutes ces choses de la nature, plantes, animaux, champignons, ou quoi que ce soit d'autre, et ce que nous, on a envie de fabriquer pour qu'on se sente bien dans cet espace. Et je pense que c'est un peu ma conception du jardin aussi que j'expose, qui est vraiment pile à cheval entre le naturel et l'artificiel. Et alors évidemment, de temps en temps, ça bascule dans l'un, dans l'autre, on se fait envahir par... Tantôt la pyrale du buis, alors faut lutter quand même un petit peu, parce que sinon on n'a plus de buis. Tantôt le frelon asiatique, bon ben on se fait manger tous les fruits. Alors voilà, je suis pas un maniaque du jardin impeccable où toutes les lignes sont droites, où il n'y a pas un nuisible, pas un insecte, pas une chenille. Au contraire, je vois venir, je laisse venir, je vois ce que ça donne, je vois comment ça vit, et on compose. C'est une sorte de composition perpétuelle et de rééquilibrage. Moi, c'est ça qui m'intéresse, justement. Si un jardin sans la nature, c'est mortifère, c'est très beau, c'est vraiment, c'est une belle photo, c'est une carte postale, mais Mais personnellement, je m'y ennuie. J'ai rien à observer dedans. Juste, c'est un beau décor, on s'est fait plaisir, mais il manque la matière. Il manque le côté organique et vivant de la chose, et puis tout l'inattendu et tout ce que ça a à nous apprendre. Un jardin de jardiniers de catalogue n'a rien à nous apprendre, c'est juste un endroit où on se promène et où on regarde. Mais bon, voilà, c'est pas ce vers quoi je tends.
Ben oui, alors j'ai eu la chance hein, de voir ton jardin, et effectivement, alors peut-être de faire une espèce de parallèle entre le jardin tel qu'il est dessiné et le jardin tel qu'il est réellement. Et alors, c'est vrai qu'il y a vraiment une correspondance assez étonnante, parce que ce qui ressort, c'est ce côté à la fois très sauvage, mais dans lequel on se retrouve. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas l'impression de quelque chose de fouillis par lequel on est dépassé, mais on a effectivement l'impression quand même d'une nature qui a repris en quelque sorte sa place, qui a reconquis un espace, tout en laissant en fait une place un peu à l'homme là-dedans. C'est-à-dire il y a un côté un peu labyrinthique quand même dans ton jardin, je trouve.
Ouais,
c'est ça, mais qui est du coup très agréable parce que on s'y reconnaît tout en étant un peu perdu par ce qui nous dépasse. Moi, je trouve que c'est une réussite. Alors, et c'est ce qui retransparaît, me semble-t-il, dans l'Oasis.
Alors tant mieux, oui, c'est ce qu'on essaye de faire dans le jardin, en effet. Conserver des endroits dont on voit pas le bout, que tout soit pas visible, compréhensible, qu'on sente qu'il y a des choses derrière qui se passent et qu'on ne maîtrise plus. Mais néanmoins, on peut marcher dans le jardin, il reste une pelouse, ça reste un jardin. Mais voilà, c'est entre deux qu'on essaye de trouver. Et que j'essaie de raconter dans l'Oasis. Alors c'était pas évident, parce que raconter un jardin comme ça, ça fait pas spécialement rêver, on se dit pas qu'on va se précipiter sur une BD qui nous parle d'un jardin, mais j'essaie de trouver un mode de narration justement un peu organique comme ça, où on saute un peu du coq à l'âne, où on suit une idée et on fait des sauts dans la chronologie. Il s'agissait pas de faire quelque chose de chronologique, alors première année, etc. J'aurais pu, mais je pense qu'on se serait vite ennuyé, donc j'ai cherché la bonne méthode, et moi j'aime bien justement dans chaque projet essayer de trouver le mode narratif qui va correspondre à l'idée que je cherche à développer. Donc voilà, ce mode un peu organique là me semblait correspondre à l'Oasis.
Oui, il est très réussi ce mode organique. Effectivement, il y a dans ton dessin une espèce de chair, d'épaisseur, de vie qui surgit. Enfin, moi, c'est pour moi la réussite graphique qui est notable, par exemple, dans la façon dont tu dessines les feuillages, les branches, l'aspect touffu, vivant, même aussi d'ailleurs dans ce qui ne relève pas du fait naturel lui-même, mais par exemple les pierres, la façon dont tu dessines les pierres dans les maisons, voilà, c'est ce côté organique, très vivant, très riche qui ressort, et pour moi c'est la réussite, alors graphique, narrative évidemment il y en a une, qui est vraiment assez prodigieuse quoi.
Il y avait un jardin métallique peuplé de sapins cylindriques avec des robes Paco Rabanne. Il y avait des cochons, pop musique et des insectes fantastiques aux couleurs idoines. Il y avait des sentiers hollandais que seule la lune éclairait à 5h de l'après-midi. J'y venais à pied prendre le thé, desservi par toute une armée de joyeux colibris, et c'était beau. C'était beau à mourir, c'était beau à vomir, des couleurs par milliers. Il y avait des courants telluriques dans tout le jardin, métallique, surtout dans les journées d'été. Et c'est comme si l'on était secoué par un géant de 17 7 pieds, particulièrement colérique, et c'était beau.
Travaille justement avec quoi? Comment tu arrives à donner cette espèce de vie, d'épaisseur, de chair, de couleur à ton dessin?
Ah, je sais pas, là, on rentre dans le cœur de la matière, c'est pas évident de définir ça. Mais en effet, moi, j'ai besoin que si je dessine une pierre, cette pierre, elle ait du vécu. Ça peut pas être... voilà, j'ai absolument horreur du parpaing. D'ailleurs, j'ai réussi à insuffler cette idée-là dans le livre, j'en suis bien content.
C'est manifeste.
Et à la fois, ça m'a fait un petit peu souffrir quand j'ai dû dessiner un mur de parpaing, parce que bon, il fallait quand même que j'en parle, ou une haie de tuya, c'était l'horreur. Mais ces pages-là sont moches, parce que j'ai dessiné des choses moches, mais il n'y avait pas le choix. Non, moi j'aime les maisons qui ont du vécu, chaque pierre doit avoir sa personnalité, chaque feuille d'arbre aussi, chaque plante, chaque arbre. Donc ben, c'était pas évident, fallait quand même caractériser tout ça, donner de la personnalité à chaque buisson, chaque arbuste. Comment je fais ça? Ben, je ne sais pas trop. Là, en l'occurrence, dans ce livre-là, j'ai dessiné au crayon noir et j'ai mis en couleur à l'aquarelle, tout en couleur directe. En fait, les pages sont la reproduction quasi à l'identique des originaux, donc je suis pas passé par des modes plus artificiels, style remplissage des bulles ou colorisation par ordinateur. D'abord, je sais pas faire, et ensuite ça n'aurait pas du tout allé à ce type de projet. Ça doit rester vivant. Voilà, les textes sont écrits à la main, à la plume, les dessins sont faits au crayon, au pinceau, et il n'y a pas de cases. Le mode de circulation dans la page se fait de manière comme ça aussi un petit peu organique. Je pense qu'on sent instinctivement la manière dont on doit lire la page. Enfin, j'ai fait en sorte que l'œil circule. Voilà, dans ce projet-là, je me sentais pas de mettre des cases, de tout enfermer dans des cases. On parle de jardin, ça, oui, ça déborde, ça dépasse, ça. Enfin, voilà, notre jardin est clos de murs et de grillages, mais en même temps, ça déborde, ça dépasse forcément. Il y a le lierre qui passe par-dessus le mur, il y a les arbustes qui passent par-dessus le grillage. Oui, j'ai vraiment besoin que ce soit vivant.
Ben, c'est une réussite de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'effectivement, le style, le choix technique de la production colle à l'objet, en l'occurrence, je crois que c'est ce que tu viens de dire, effectivement, hein, c'est-à-dire au fond, l'objet, il commande la manière dont on va le montrer, dont on va le dessiner, dont on va le raconter, dont on va le mettre en page, et moi je trouve que c'est effectivement la réussite, c'est-à-dire que voilà, tu restes pas dans une logique de case qui serait une espèce de cloisonnement qui du coup ne correspondrait pas à ce que tu essayes de décrire. Justement un dessin un peu un jardin, pardon, tu vois, je confonds le jardin et le dessin du jardin. Ça montre à quel point c'est réussi de ce point de vue là où effectivement tu restitues, mais même d'ailleurs hein, sur la couverture hein, cette espèce de débordement là, on voit que par exemple là, bah voilà, le lierre dépasse de la couverture hein, il va sur la tranche comme dans ton jardin, ça part un peu de partout, mais pourtant effectivement il y a quand même quelques bornes. Ici c'est la tranche de l'album. Dans ton jardin, bah oui, il y a quand même des murs, finalement. Ouais. Mais tu as essayé, justement, de débarrasser, d'ailleurs, le jardin de tout ce qu'il pollue. Le mur de parpaing, tu en parlais tout à l'heure, de tout ce qu'il pollue au propre comme au figuré. Hein. Tu parlais des cotonnets astères ou des cupressinés tout à l'heure, des géométriques qui défigurent les jardins, mais aussi les tôles, les parpaings. Tu as enlevé des clous, je crois, dans le sol, des bouts de plastique. Voilà. Et puis tu as replanté, tu fais pousser par-dessus, tu prends des plans de récupération, tu boutures, tu laisses advenir ce que tu appelais tout à l'heure l'inattendu. Hein, telle plante qui était jusque-là étouffée, renaît, tels insectes qui avaient déserté ton jardin reviennent après avoir disparu des années, et c'est ça que tu arrives à restituer, cette espèce de vie, d'histoire de ton jardin.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu un énorme travail de décrassage, le nombre d'allers-retours que j'ai fait à la déchetterie est assez infini. Notamment, on a redécouvert une rivière là, qui passait sous la grange, sous une partie du jardin. Donc ça, c'était un travail fascinant, mais en effet, pour déblayer et retrouver l'escalier qui était enterré, ben en effet, sous la mince couche de terre, c'était garni d'ordures, de vieux sacs, d'engrais, de ferraille, etc. La rivière, inutile de dire que pareil, elle était truffée d'ordures, J'en ai rajouté une petite partie dans l'album pour donner une idée, mais en effet, il y a... Ouais. Matelas, mobilette, ampoule, lame de rasoir, enfin bon, c'était complet. Oui, un très très gros travail. Et en effet, oui, tu parlais de la couverture. Alors, c'est un peu l'éditeur qui m'a poussé à faire une couverture très très fournie comme ça. Moi, j'aime bien les couvertures très épurées, qui se voient comme ça en un clin d'œil. Et là, ils m'ont dit, mais non, justement, ça parle de quelque chose de touffu, faut que la couverture soit touffue. Ils ont sans doute eu raison. Bon, moi, c'est pas comme ça que je voyais les choses, mais c'est pas grave. Et en effet, la couverture, c'est un grand dessin qui englobe la première et la quatrième de couverture, qui fait le tour du dos, qui revient même par-dessus le cartonnage. Ça fourmille. Je crois que ma fille s'est amusée à compter toutes les bestioles qu'on pouvait voir dans la couverture. Elle en avait compté un certain nombre, j'étais surpris. Mais en effet, on doit voir un merle, un rouge-gorge, un papillon, un longicorne, une cétoine, enfin bref. Un crapaud aussi. Toutes sortes de bestioles qui, évidemment... Alors, dans le livre, en effet, je comptabilise un peu. J'aime bien les collections de sciences naturelles, les catalogues et les pages de guides. Donc, y a des moments où je fais le compte un petit peu de tous les papillons qu'on arrive à voir sur nos fleurs, tous les reptiles, etc. Et oui, bah, tu parlais du fait qu'il n'y ait pas de cases et tout. Je dois avouer que moi, je me sens à l'aise dans un projet... quand je finis par vraiment trouver la forme qu'il doit avoir. Et c'est pour ça que je travaille quand même la plupart du temps tout seul. J'arrive pas trop à... Parfois on me propose des scénarios, mais je systématiquement je les refuse, parce que j'ai besoin d'être totalement impliqué dans le projet. Et je suis pas de dessinateur, en fait. Je crois que pour arriver à quelque chose qui tient à la route et qui arrive à un équilibre, j'ai besoin d'être auteur complet, on va dire. Je trouve autant de plaisir et d'intérêt à bâtir une mise en scène qu'à la dessiner. Quand je réussis à trouver une astuce ou à trouver quelque chose auquel j'avais pas pensé avant et qui sert le récit d'une manière inattendue, enfin j'aime me surprendre de cette manière-là. Et j'ai pas. Enfin voilà, c'est la meilleure manière pour moi d'avoir du plaisir à dessiner un projet, c'est quand vraiment j'ai trouvé la bonne forme de narration. Donc c'est pour ça que parfois c'est très très long. Un livre comme Autres œuvres, j'ai eu deux storyboards différents complets, une première version longue et une deuxième version complètement ramassée de moitié moins de pages. Là, avant-hier, j'ai terminé un deuxième storyboard du projet sur lequel je travaille actuellement, le complètement inverse. Ma première version faisait 70-80 pages, celle que je viens de terminer en fait 150 ou 160. Parce que voilà, ça manquait d'ampleur et il fallait redonner de la matière. Et là, je suis enfin content de la forme que j'ai fini par trouver. Et c'est une forme complètement différente de celle de l'Oasis ou de Rujimba. Là, je suis revenu aux cases parce qu'on est plus dans un récit. Et voilà, enfin, il fallait en arriver là. Puis des cases très panoramiques parce que ça se passe au Groenland et on est dans un pays très très horizontal avec beaucoup de panoramas. Donc voilà, j'aime trouver la forme qui correspond à chaque projet. C'est long, c'est infiniment long, il y a beaucoup de déchets, mais quand j'arrive à la bonne forme, je me dis que bon, voilà, ça valait peut-être le coup d'en passer par là, même si c'est quand même... la bande dessinée, quel boulot.
Oui, alors d'autant plus que, outre cette aventure que tu narres, il y a... quelque chose qui m'a moi beaucoup plu aussi dans l'Oasis, pour y revenir, c'est que certaines planches ont la beauté et la précision des planches d'entomologistes typiques des livres de science du 19e, avec des dessins de papillons, de guêpes, de scarabées, qui sont en fait aussi des dessins amoureux. C'est-à-dire, ce ne sont pas seulement des planches scientifiques avec la rigueur, l'exactitude qu'on trouve dans les planches classiques d'un spécialiste de l'observation soucieux du détail. Il y a manifestement dans cette chair, dans cette épaisseur du trait, un véritable amour de ce que tu dessines. Tu parlais tout à l'heure de ta passion ancienne pour les insectes, mais aussi manifestement pour les plantes. Il y a des planches absolument superbes. Ça veut dire quoi là? C'est les scientifiques derrière qui travaillent. C'est quoi là, le moteur là?
Ouais, tu dis amoureux, il y a peut-être un peu de ça. Moi, je pense que j'ai vraiment besoin d'aimer ce que je dessine pour le dessiner le mieux possible. Alors peut-être qu'il y a un petit côté un peu scientifique aussi derrière, c'est sûr, mais même si je suis sans doute plus littéraire que scientifique, du moins j'espère. Mais en effet, aimer les insectes, c'est pas une évidence pour les gens de manière générale, je crois. Aimer les araignées encore moins. Voilà, si moi j'aime les insectes, j'ai besoin de faire passer cet amour des insectes, et je serais content et j'aurais réussi si les gens me disent après « Ah bah, je les vois plus de la même façon, et je vais mieux les regarder maintenant. » Voilà, si je fais une page complète de papillons, c'est à la fois pour montrer à quel point ils sont beaux et je les trouve beaux, donc je ferai tout ce que je peux pour restituer au maximum leur couleur, leur motif incroyable, et aussi pour montrer à quel point ils sont divers et à quel point vraiment ça vaut le coup de s'y intéresser. Parce qu'un papillon, ben, y en a plein d'espèces, et si on le voit de loin, on voit juste le petit insecte qui volette tranquillement dans son jardin, on se dit « tiens, un papillon, c'est chouette ». Mais voilà, ça vaut le coup de faire l'effort de se rapprocher, et si on change de focale, et là c'est inouï tout ce qui se passe, on entre dans un univers qui nous est complètement inconnu. Quand on n'a jamais pris la peine de regarder de plus près un insecte, on se rapproche de 30 cm, et le monde qui s'ouvre à nous est vraiment absolument incroyable et infini. J'adore leur forme, j'adore les dessiner, donc je me suis vraiment fait plaisir, ça c'est clair. Mais par exemple, j'avais envie aussi de montrer à quel point ils étaient divers. La cétoine, bon, les gens qui s'intéressent un peu aux insectes la connaissent, mais il y a d'autres espèces de cétoines. Dans le jardin, j'en ai vu deux, donc j'étais content de montrer que on peut aller encore plus loin, et du coup j'ai dessiné les deux côte à côte et de montrer la différence de couleur, de forme. Alors c'est, tout est dans la nuance, mais justement là c'est ça qui m'intéressait, c'est on se rapproche, plus on se rapproche plus on rentre dans la nuance, et plus la nuance est passionnante. Plus on voit de loin, plus on se dit bon, il y a le monde des insectes, oui bah en fait ils ont 6 pattes, ça me dégoûte, quand j'en vois je les écrase. Alors que si on prend la peine de les regarder, on va se mettre à les aimer, parce qu'on va les découvrir et on va se rendre compte que c'est passionnant. De même, je me suis aperçu que les araignées, on emploie ce terme générique d'araignée, mais il y en a une infinité d'espèces. Plus je vais dans mon jardin, plus je me rends compte de la quantité d'espèces qu'il contient, et plus je me rends compte que j'en connais 3, 4, 5, mais... Mais alors, je connais pas mes araignées, en fait. On vit ensemble et on se connaît pas. Enfin, c'est comme ne pas connaître son voisin derrière le mur. Pour moi, c'est presque pareil. Donc, il y a quelque chose à faire, là.
Bon, Simon, une dernière question. Au fond, l'avenir, il est dans le jardin?
À mon avis, une bonne partie de l'avenir. Très certainement, oui. Ou du moins dans la réconciliation que chacun devrait pouvoir... opérer avec son jardin si on en a, son balcon sinon, et si on n'a rien de tout ça, qu'on vit en appartement, et bien avec la nature en général. Mais apprendre à mieux la connaître, c'est faire le premier pas vers le respect et cette espèce de réconciliation qu'on doit avoir, parce que je pense qu'on s'en est très nettement écarté et qu'on la connaît pas. C'est idiot, mais je pense que les enfants grandissent. Dans tous les livres pour enfants, on nous fait connaître le lion, la gazelle, l'antilope, le buffle, le rhinocéros, la girafe, le zèbre. Mais c'est bien beau, c'est formidable la savane, mais les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas la cétoine, le lucane, le grand capricorne et tout ce qui vit en bas de chez nous. Dans l'album, j'ai mis une page où je rentre chez moi et dans la rue, sur le trottoir d'en face, je vois deux jeunes qui sont totalement effarés parce que sur leur bord de la fenêtre, il y a un très beau coléoptère qu'on voit pas très fréquemment. Ils auraient dû trouver ça tout à fait incroyable de le voir et l'admirer. Non, au contraire, ils voient quelque chose qui dépasse de l'abdomen. La seule référence qu'ils ont, c'est le scorpion. Donc ça pique. Donc leur réflexe immédiat, c'est de vouloir l'écraser. Voilà, je me dis que c'est quand même un petit peu dommage. Alors que cet insecte-là, on le prend dans la main, il nous fera rien, on le met dans son jardin et il va vivre sa vie tranquillement et on aura fait une rencontre.
Bah, le propre d'une œuvre aussi, c'est d'une œuvre d'art en général, c'est peut-être de changer notre regard sur les choses. Je crois que tu y as bien réussi dans ce magnifique livre, au travers de ton magnifique jardin. Donc je te remercie, Simon, en fait, de nous offrir vraiment un moment à la fois poétique et délicat au travers de ce livre. Je te remercie d'être venu et j'espère qu'on se rencontrera bientôt, parce que on a beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup de choses à te demander sur tout le reste de ton œuvre. En tout cas, Simon Hureau, merci pour l'Oasis, publié chez Dargaud, et à très bientôt.
À bientôt, merci à toi.